Radio Prague, les informations.
Les conditions de la social-démocratie pour tolérer un gouvernement minoritaire de l'ODS. Disparition d'Antonin Soum, ancien secrétaire de Jan Masaryk. Projet d'augmentation du prix du tabac. Le Parti social-démocrate tchèque pourrait soutenir le gouvernement minoritaire du Parti civique-démocrate ODS, formation de droite, pendant 2 ans jusqu'aux législatives anticipées qui seraient liées avec les élections sénatoriales et régionales. Une déclaration du chef de la social-démocratie et premier ministre sortant Jiří Paroubek. Cette proposition est cependant mal vue par le chef de l'ODS, Mirek Topolánek, qui refuse également l'intention des sociodémocrates d'influencer la politique et la composition du futur cabinet. Antonín Soum, ancien secrétaire personnel du ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères Jan Masaryk, est mort à l'âge de 87 ans. Dans la matinée de ce mardi à Prague, Antonín Soum a été aussi victime des procès politiques staliniens des années 1950. Il a été condamné à 20 ans de prison. Le ministère tchèque des Finances propose au gouvernement d'augmenter à partir de l'année prochaine la taxe sur le tabac. Selon le porte-parole du ministère, Simona Krajnova, on peut s'attendre à une augmentation du prix d'un paquet de cigarettes de 12 à 15 couronnes. La société tchèque Doplapap, le plus grand producteur tchèque d'emballages en plastique, a racheté la part majoritaire de la compagnie ISAB de Vérone en Italie. La société Doplapap appartient, elle, à 90% à la compagnie italienne Dopla. La compagnie aérienne à bas prix Sky Europe créera à partir de Noël prochain une ligne aérienne entre Prague et Grenoble. La ligne sera desservie une fois par semaine le vendredi et sera utilisée notamment par les touristes désirés se rendre dans les Alpes. Le prix de billets sans taxe d'aéroport est prévu à partir de 290 couronnes, quelques 10 euros. Météo. Ce mardi, fête de toutes les Hanas, selon le calendrier tchèque, le ciel en République tchèque a été variable à nuageux avec de la pluie par endroits et les températures diurnes se situant entre 17 à 21 degrés. Mercredi, le ciel en Tchéquie sera variable avec quelques rares pluies. Les températures diurnes s'échelonneront de 21 à 25 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter. Merci de les avoir suivi.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être de nouveau fidèles à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité en République tchèque. Nous débuterons avec de la politique. Après 2 mois et demi de blocage suite aux élections législatives, la République tchèque reste toujours sans nouveau gouvernement, mais entrevoit désormais un début d'issue de crise. Une manifestation de protestation contre l'éventuelle implantation d'une base antimissile américaine en République tchèque s'est tenue dans le centre de Prague lundi. Nous y reviendrons avant de vous présenter quelques-unes des candidatures pour le moins surprenantes aux prochaines élections sénatoriales. Nous terminerons enfin sur une note un peu plus réjouissante avec l'entretien avec un chef cuisinier français qui a ouvert récemment une brasserie d'un nouveau genre pour les Pragois. Et avant de commencer, toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Deux mois et demi après la tenue des élections législatives, la République tchèque ne dispose toujours pas de nouveau gouvernement. La situation de pâte, comme elle a été appelée, c'est-à-dire de blocage de la scène politique, pourrait toutefois déboucher sur une solution suite à l'élection lundi d'un nouveau président de la Chambre des députés. Cette élection du député social-démocrate Miloslav Vlček, qui avait été précédée de 6 tentatives infructueuses et résulte d'un accord préalable entre les 5 partis ayant accédé au Parlement, va entraîner la démission du gouvernement de Jiří Paroubek, lui aussi social-démocrate, sitôt la fin ce mardi de la réunion constituante de la Chambre basse. Mirek Topolánek pourra ainsi être nommé nouveau Premier ministre par le président de la République Václav Klaus. Il revient alors au leader du Parti civique-démocrate, ODS, vainqueur du scrutin législatif, de mettre sur pied un nouveau cabinet qu'il soumettra au vote de confiance des députés. Mais avant cette étape peut-être décisive, de dures négociations se poursuivent en coulisses, comme l'a expliqué Mirek Topolánek à la sortie de l'élection du président de la Chambre des députés.
Les discussions portant sur le programme vont encore continuer, mais nous voulons trouver un terrain d'entente le plus tôt possible, c'est-à-dire dans les heures ou jours à venir. Pour cela, nous allons nous efforcer de convaincre les autres partis plus petits. Tout cela devient de plus en plus compliqué, mais j'espère qu'après le déblocage de la situation à la Chambre des députés, le processus de formation d'un nouveau gouvernement va lui aussi bouger.
Selon l'accord conclu entre les partis et le chef de l'État, l'ODS devrait former un gouvernement minoritaire au sein duquel figureraient également différentes personnalités n'appartenant à aucun bord politique et tolérées par la social-démocratie. La composition de ce cabinet est d'ailleurs un point sur lequel le Premier ministre sortant, Jiří Paroubek, a d'ores et déjà prévenu qu'il porterait une attention toute particulière.
Bien entendu, au-delà encore du programme du gouvernement, savoir qui siégera au sein de celui-ci est un élément très important pour nous. Au nom des électeurs de la social-démocratie, il y a en effet certains noms que nous ne pouvons pas accepter.
Si Mirek Topolánek, dont le projet initial de coalition tripartite composée de l'ODS, des chrétiens démocrates et des Verts n'a pas abouti, faute de majorité au Parlement, échouait de nouveau dans la composition d'un nouveau gouvernement, ce droit pourrait alors revenir à Jiří Paroubek, comme il semble en avoir obtenu l'engagement de la part du président de la République. À l'inverse, si le cabinet de Mirek Topolánek obtenait la confiance du Parlement, alors c'est Jiří Paroubek qui deviendrait président de la Chambre des députés, mettant ainsi un terme à un invraisemblable jeu de chaises musicales. Dans l'émission d'hier, nous avons évoqué les positions des principaux partis politiques concernant l'éventuelle installation d'une base antimissile sur le sol tchèque. Seul le parti majoritaire au Parlement, l'ODS, dont le chef Mirek Topolánek tente actuellement de former un gouvernement, semble divisé sur l'opportunité d'un référendum sur la question. Car selon les premiers sondages réalisés, les Tchèques se montrent assez défavorables au projet du Pentagone. Plus de précisions avec Alexis Rosenzweig.
83% de personnes interrogées sont opposées à cette base militaire en Tchéquie. C'est le chiffre qu'avançait le quotidien Mladá Fronta Dnes il y a quelques semaines. Le sondage, à l'instar du journal, manquait cependant de consistance avec seulement 354 personnes interrogées. Depuis, l'agence TEM a sorti une autre enquête d'opinion, plus sérieuse, dans laquelle 51% des sondés se déclaraient contre le projet, 17% ne se prononçaient pas et 32% y étaient favorables. Lundi, une manifestation a rassemblé une centaine de personnes dans le centre de Prague, initiée par une organisation indépendante appelée Non aux bases. Jan Malíček en est le porte-parole, on l'écoute.
Nous sommes une organisation apolitique. Nous voulons attirer l'attention sur le fait qu'on ne discute pas assez du sujet ici. Nous souhaitons que les citoyens s'impliquent dans le débat et signent une pétition qui demande un référendum sur la question.
Dans le défilé, une dame d'un certain âge, Eva Maléjová, explique en quoi le projet de base militaire ne lui plaît guère.
Pour moi, l'actuel président des États-Unis n'est pas une personne digne de confiance. Je ne crois pas aux raisons qui justifient l'installation de missiles sur notre sol. Nous ne pouvons nous le permettre avec notre passé quand une autre armée était déjà ici.
Et en Pologne, l'autre pays qui pourrait héberger la base américaine, un récent sondage montrait que 23% de la population seulement y était favorable. Mais Washington devrait parvenir à convaincre Varsovie ou Prague, ou les deux, avec des arguments de poids, comme ceux de l'argent et des visas par exemple. Et à Prague, les Américains pourraient trouver une oreille attentive si le gouvernement en formation est investi. Le potentiel ministre des Affaires étrangères, Alexander Vondra, est en effet un atlantiste convaincu. Il est déjà celui qui avait conseillé à Václav Havel de signer en 2003 la lettre de soutien à George W. Bush et à l'invasion de l'Irak.
Après le sénateur Vladimir Jelezny, ancien directeur de la plus grosse chaîne de télévision privée, Nova, poursuivi par les scandales, la chambre haute du Parlement tchèque pourrait bien accueillir d'autres célébrités, dont les candidatures sont pour le moins surprenantes. Un sujet présenté par Alain Slivinski.
Les sénatoriales ont lieu tous les deux ans en République tchèque pour renouveler un tiers du Sénat qui compte 81 sénateurs, donc 27 sièges que se disputent les candidats de formation politique ou indépendants. Il y a deux ans, la victoire de Vladimir Jelezny dans la circonscription de Znojmo, en Moravie du Sud, avait suscité la surprise générale. Jelezny avait été élu sénateur en battant tous ses adversaires, le seul candidat à avoir été élu au premier tour. Cette année, la surprise pourrait être encore plus grande si certains candidats qui viennent d'annoncer leur candidature étaient élus. Les partis politiques misent sur la popularité, semble-t-il. La social-démocratie présente l'ancien champion de lancer du disque, Imrik Bougar, auréolé d'un parfum de scandale lié au dopage sous le régime communiste. Les Verts envoient au combat électoral le chanteur populaire Jiří Dědeček et un oncologue de grande renommée, Pavel Klenner. Les démocrates européens ont choisi une ancienne championne de ski de fond, Květa Jiříová-Peckova. Le parti civique démocrate pense à l'acteur Tomáš Töpfer. Jana Bobošíková, députée européenne, vient de fonder son propre parti, Politique 21, et pense présenter le chanteur Martin Maxa. Parfum de scandale aussi, car ce dernier avait été condamné à une peine de prison avec sursis pour agression. C'est d'ailleurs, selon lui, ce qui le pousse à se présenter au sénatorial pour faire quelque chose de plus, car il affirme avoir été condamné à tort. Une forte odeur de scandale émane vraiment de la candidature de Libuše Barková, une amie de famille de l'ancien premier ministre social-démocrate Stanislav Gross, contraint de démissionner pour une affaire de biens personnels. Barková vient d'ailleurs d'être condamnée à 5 ans de prison ferme pour escroquerie à l'assurance, mais a fait appel. Elle veut être candidate indépendante pour contribuer au changement dans le milieu de l'entreprise. Elle affirme qu'elle a été salie par les politiciens et voudrait se blanchir et ne recherche aucunement l'immunité sénatoriale. La dernière candidature quelque peu bizarre pour les sénatoriales est celle de l'épouse du leader du Parti civique démocrate, Mirek Topolánek. Pavla Topolánková devrait se présenter sur la liste du parti Politika 21 dans la circonscription d'Ostrava, en Moravie du Nord, et contre le candidat du parti que dirige son mari. L'éventuel futur Premier ministre s'est borné à déclarer que c'était le libre choix de son épouse. Mais dans les milieux bien informés, on parle plutôt de crise conjugale. Le Sénat tchèque changera-t-il l'image qu'on se fait généralement de lui, celui d'une assemblée des sages de la nation, pour devenir celle des célébrités?
Představte si, co jste měl dnes v obědu. Představte si, co jste měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, to jste měl dnes v obědu.
Et comme promis, terminons sur une note plus réjouissante avec le chef cuisinier Jean-Paul Manzac. Originaire du sud-ouest de la France, il vit depuis 8 ans à Prague. Et il y a moins d'un an, il a ouvert un restaurant de cuisine française dans la capitale tchèque. Situé en plein centre-ville, mais dans une rue un peu à l'écart du tumulte, sa brasserie se veut résolument française. Mais plutôt que de surfer sur le côté baguette et béret français, le concept de l'établissement entend marier le neuf et l'ancien. Bois, cuivre, banquette en cuir, fer forgé des brasseries parisiennes classiques y trouve un nouveau souffle. Anna Kubishta a rencontré Jean-Paul Manzac.
Disons que moi j'avais plein d'idées dans la tête, dans la mesure où, comme j'ai dit, le concept de la brasserie m'a quand même pris un an à mettre sur papier, puisque je voulais faire une brasserie traditionnelle mais moderne. Après, le design lui-même, il a été fait en collaboration avec un architecte tchèque qui s'appelle Monsieur Tchernenka Vaslav, qui a fait beaucoup de restaurants ici sur Prague déjà, qui est un architecte qui a beaucoup d'idées modernes, entre parenthèses. Et puis après, on s'est basé sur beaucoup de... On a essayé en fait de reprendre des idées de brasserie du début du siècle sur Paris, comme la brasserie Flo ou d'autres brasseries Lip, etc. Mais on a voulu recréer une atmosphère, disons, du siècle 2006, où en fait, on est quand même dans une ère moderne et donc pas rester sur des traditions trop vieilles, mais garder un concept nouveau dans une ère nouvelle, quoi, je dirais.
Qu'en est-il de la clientèle tchèque que vous avez? Est-ce qu'elle est exigeante?
Bon, je dirais que tout client est exigeant à partir du moment où il paye une addition, ce qui est normal, quoi. Quand on regarde un menu ou une carte et puis on commande un produit, on s'imagine comment est le produit avant de le commander. Bon, après, quand le produit arrive, je pense que les Tchèques sont plus impressionnés par le côté cuisine ouverte du restaurant, où en fait, ils voient directement le cuisinier préparer leur plat, plutôt que ce qu'il y a dans l'assiette ou ce qu'ils mangent en réalité. Quoi. Les Tchèques sont des clients exigeants comme les autres.
Et de manière générale, le client tchèque est plutôt, vous diriez, plutôt conservateur ou plutôt ouvert à la nouveauté
Non, je dirais que le client tchèque est très ouvert à la nouveauté et a fortiori, étant donné qu'il a, il a manqué ici pendant des décennies des restaurants comme les nôtres, il est vrai que le tchèque a un intérêt particulier à venir dans nos restaurants français ou dit moderne entre parenthèses, et puis retrouver une cuisine plus classique, plus légère que la cuisine tchèque en général, avec des goûts et des saveurs différentes de leur cuisine originale. Quoi.
Vous parliez de la cuisine ouverte, justement. D'où vient cette idée de cuisine ouverte ?
C'est deux choix. Le premier choix, c'est, étant donné que moi je suis de formation cuisinier, donc chef de cuisine, j'ai passé énormément d'années derrière les murs de cuisine sans jamais voir mes clients. Et pour voir mes clients, il fallait que je sorte de la cuisine pour aller voir mes clients à table. Donc en fait, l'idée de la cuisine ouverte, c'est pour rapprocher en fait la cuisine du client et aussi me rapprocher moi-même du client de la table. C'est-à-dire que je peux tout de suite dire bonjour à un client sans que le client essaye de me chercher. Il me voit tout de suite parce que la cuisine est ouverte, donc on est là au milieu du restaurant. Ce qui fait aussi la première attraction de la brasserie M, c'est la cuisine au centre et le fait que les cuisiniers ne se cachent plus derrière un mur et qu'on puisse être en contact aussi avec nos clients, quoi, ce qui est très important, je dirais, dans la modernité de la cuisine en général. Quoi.
Pour ce qui est de la formation alors des cuisiniers, comment ça se passe? Comment est-ce qu'est transmis le savoir-faire? C'est par vous?
Ben oui, en général c'est par moi, puisque c'est quand même moi qui les forme. Bon, j'essaye de prendre les cuisiniers qui sortent généralement de l'école hôtelière en tchèque. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses à leur apprendre en plus, parce que malheureusement les écoles tchèques n'ont pas encore les moyens de se permettre d'acheter par exemple des fruits de mer ou des poissons ou autres pour former leurs cuisiniers. Mais ils ont quand même des bases très solides. C'est des gens qui sont très ouverts à la cuisine, qui ont envie de connaître beaucoup de choses, qui ont envie de développer leur savoir. Et donc forcément, ils sont très ouverts à la formation et à tout ce que je leur apprends. Donc ça se passe bien pour l'instant, très très bien. Je suis très content même.
Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jedl u stolu, do víc v rosolu, kaputu ovařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jedl u stolu, do víco v rosolu, kaputu vařenou, jedli jsme ji smařenou, sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jedl u stolu, do víco v rosolu, kaputu vařenou, jedli jsme ji smařenou, sám jsem si za pecí zadělal telecí. Škubánky maštěný, maštěl jsem jak praštěný. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jedl u stolu, do víco v rosolu, kaputu vařenou, jedli jsme ji smařenou, sám jsem si za pecí zadělal telecí. Škubánky maštěný, maštěl jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráku, je seter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky ze šodo, zapíjel jsem je vodo.
Vous venez d'entendre la chanson « Tsosem Yalnes, Kobiedou » soit en français « Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui au déjeuner ?» Voilà, et si vous passez à Prague et que vous en avez marre du goulash ou des knedlíky et du chou, passez donc à la brasserie M de Jean-Paul Manzac. En attendant, c'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention, mais restez encore en notre compagnie avec tout de suite le 73 de Radio Prague.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Voici donc la seconde rubrique destinée aux radio-écouteurs et aux DX du mois d'août. Je voudrais vous annoncer tout au début que nous consacrerons la dernière rubrique de ce mois au 70e anniversaire de Radio Prague. une émission spéciale diffusée le 29 août, rediffusion le lendemain matin, avec Roland Paget, président du club Amitié Radio. Je vous rappelle aussi, ou je vous annonce plutôt, que tous ceux qui nous enverront un rapport d'écoute de notre émission du 31 août, donc le jour anniversaire du 70e anniversaire de Radio Prague, recevront une carte QSL spéciale. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de l'avenir du DX en reprenant certains propos de Michel Berly-Sarrazin. Je pense en effet que ces idées exprimées dans un article publié justement par la revue du club Amitié Radio, à l'écoute du monde, sont des plus intéressantes et ne sont pas accessibles à tout le monde. Je dirais plutôt que pas beaucoup de personnes ont conscience de ce qui va changer avec l'adoption du numérique pour un peu toutes les transmissions radio, télé, services utilitaires. Comme le fait Michel Berly-Sarrazin dans son article, remettons tout d'abord les choses à leur place. Quand on parle de DX, il faut savoir que c'est la recherche de l'écoute plutôt difficile, à longue distance, de stations rares. Le DXeur recherche la difficulté volontairement ou parce qu'il en est obligé. Les radio-écouteurs, ou SVL de l'anglais Shortwave Listening, écoutent les stations internationales ou autres dont la réception est relativement confortable. Naturellement, les équipements des deux seront bien différents, très performants pour le DX, moins pour le SVL. Naturellement, parmi ceux qui s'adonnent à l'écoute des ondes radio, on trouve de très nombreuses personnes qui pratiquent les deux. Alors voyons l'écoute de la radio internationale ou autre à l'heure du numérique. Les ondes courtes, ce sont celles qui nous intéressent le plus quand on parle de radio-écouteurs. Elles sont diffusées jusqu'à maintenant en mode analogique. Si elles passent au numérique, comme on peut s'y attendre et comme certaines stations internationales s'y préparent, dont Radio Prague, on parle plutôt de DRM. Qu'est-ce que celui-ci va nous apporter? Le principal sera un confort d'écoute comparable ou presque à la FM. On affirme que c'est l'avenir de l'onde courte. À côté de cet avantage, Michel Berly-Sarrazin présente toute une gamme de désavantages. Le principe de la diffusion numérique est basé sur une chose très importante, le signal doit être assez puissant et de bonne qualité pour être reçu convenablement. Dans le cas contraire, on obtient les petits carrés à la télévision ou rien du tout. Pour la radio, ce sera vraiment tout ou rien. Pas de fading, d'interférence, de bruit. Soit vous êtes dans la zone d'écoute ou non. Et comme le dit Michel, c'est la fin du DX de l'écoute à longue distance ou dans des conditions médiocres. Autre inconvénient, deux stations émettent sur la même fréquence et l'une est plus forte que l'autre. C'est elle qui passera, la faible non. Le numérique occupera aussi plus de place avec ses 5 kHz pour chaque canal. Là, il convient de dire, selon les expériences de Radio Prague en la matière, que si nous nous émettons en numérique, les émissions seront quand même audibles dans les régions lointaines, Amérique ou autres. En effet, Radio Prague devrait utiliser les services de la Deutsche Welle pour le DRM. Pour que la réception soit possible à longue distance, on fera appel à de nombreux relais, terrestres ou via satellite. Il découle de cela que les plus touchés seront donc les DXeurs, alors que les SVL, radio-écouteurs donc, devraient bénéficier des avantages du numérique. Michel Berly-Sarrazin fait aussi une constatation importante, la facilité avec laquelle il est possible de brouiller les émissions en DRM. Comme on le sait, tous les pays dans le monde ne vivent pas dans un système démocratique. En Tchéquie, on a encore en mémoire le brouillage des émissions ondes courtes de Radio Europe Libre, qui diffusait en ondes courtes donc. Il est vrai que même avec ce brouillage du régime communiste, on arrivait à écouter dans certaines régions les émissions d'Europe Libre. Avec le numérique ou le DRM, la réception sera nulle partout. Il faut prendre en compte aussi la possibilité de crypter les émissions, de les rendre payantes. Nous ne savons si cela pourrait concerner à l'avenir les stations internationales, à condition qu'elles diffusent encore, car à la vitesse où elles disparaissent des ondes ces dernières années, au temps du numérique total dans le monde, elles n'existeront peut-être plus. De toute manière, cela pourrait toucher les stations nationales, encore plus les utilitaires, puisque les services météo, par exemple, sur les satellites sont de plus en plus à devenir payants. Jusque-là, nous parlions d'ondes courtes, mais il semble que le DX classique puisse bien disparaître dans d'autres bandes AM. Les ondes moyennes, petites ondes, en premier lieu. On parle de leur renaissance, mais elle sera numérique, donc même les avantages et les mêmes inconvénients que pour les ondes courtes. L'avenir, comme le fait remarquer Michel, ce n'est pas tout gai. Au DRM, DAB et autres, on pourrait s'ajouter le CPL, la diffusion en utilisant le réseau de distribution de courant électrique. Cela veut dire qu'on aura peut-être l'embarras du choix pour écouter confortablement, mais seulement ce qu'on vous permettra d'écouter. Plus question aussi de se dire à Prague, tiens, je vais écouter ce que dit France Inter, car il nous semble bien que toute la banque AM pourrait bien passer au numérique. Un inconvénient de plus, les dépenses supplémentaires. On le voit avec la TNT, quand le simple utilisateur se voit obligé d'acheter pour regarder son feuilleton favori un convertisseur ou une nouvelle télé. C'est vrai, on n'arrête pas le progrès, mais on est en voie d'arrêter certaines activités d'intérêt comme le DX par exemple, ou même d'une certaine manière l'écoute des radios étrangères. Vos opinions sur ce sujet seraient certainement intéressantes. Envoyez-nous les, nous nous ferons un plaisir de les diffuser dans un prochain 73. Ainsi se termine l'émission en langue française sur les ondes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And